9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Mathieu Madénian.
Bonjour, excusez-moi, je suis en train de boire.
Vous êtes humoriste, comédien et assoiffé. Vous êtes avant tout auteur de One Man Show.
Mannequin aussi,
en
mannequin.
Stand-up, bien sûr. Votre dernier spectacle, spectacle familial, vous étiez venu nous en parler, on en était ravis. Vous êtes, il tourne encore le spectacle.
Oui, on a prolongé la tournée jusqu'à fin décembre.
Votre actualité se passe à la télévision. Vous présentez Génération Paname, ce sera demain sur France 2 à 21h. Racontez le principe. D'abord, le Paname Art Café, c'est quoi?
C'est le comédie club de référence à Paris. C'est là où j'ai débuté, où plein de comiques et de stand-upers et stand-upers ont débuté. Il y a des spectacles tous les jours de 17h à minuit, toutes les heures. Il y a plein d'artistes et le week-end c'est de midi à minuit. C'est un lieu,
c'est un petit endroit.
C'est une salle de 80 personnes.
Ah oui, parce que là, le spectacle est grand, c'est beau et se fut filmé à la Cigale. C'est bien ça.
Oui, oui, parce que pour la télé, il faut qu'il y ait. Alors pour Culture Box, on filme au Paname.
Ouais.
Et pour France 2, on filme à la Cigale. Mais c'est 3-4 mois de travail avec tous les comédiens et les comédiennes pour qu'ils aient 5 minutes qui défoncent pour que ça puisse être intéressant à la télé. Parce que le problème de la télé, c'est que dès qu'il y a du spectacle vivant à la télé, ça casse le côté vivant. Donc il faut que le niveau des comédiens et des comédiennes soit élevé.
Pourquoi 4 mois de travail? C'est pas une captation dans sa continuité? Si.
C'est, en fait, on travaille. Kader Aoun, qui met en scène le spectacle, travaille au Paname, repère les jeunes stand-upers et stand-upers et travaille avec eux leur texte afin que le jour J, eh bien, le spectacle soit le mieux possible. Quoi.
Qui sont-ils, ces 12? Comment les présenter? Qu'est-ce qui les unit et qu'est-ce qui les sépare? Qu'est-ce qui les différencie?
C'est des gens très marrants. Non, mais sérieux, c'est ça, en
je
fait.
Je souris. C'est un peu la base.
Non, mais il y a des émissions où les gens sont moins marrants, où il y a moins de travail de fond. Là pour le coup...
Encore heureux qu'un humoriste soit marrant.
Mais y en a, je peux t'en citer plein. Même moi, des fois, ça m'arrive souvent de bider et tout, mais c'est du travail.
Ouais.
Après, quand on travaille pendant 3-4 mois, le jour du spectacle, on ne sait pas ce qui va se passer. Mmh. C'est ça le charme de faire du spectacle vivant. C'est qu'on a tout fait pour que ça soit marrant, et bien on espère que ça va l'être. Mais il y a le bénéfice du doute.
Ça a été enregistré pendant la période du Covid, c'est bien ça?
Oui, on a bossé ça. C'était c'est ça. Mais ça fait longtemps, ça fait 2 ans qu'on travaille avec France 2 et avec Culture Box. Et donc, tous les 2-3 mois, on enregistre des émissions et on met à l'honneur des jeunes humoristes qui méritent.
Allez, on va donner la tonalité un peu. On parlait du Covid, on va entendre Az, qu'on aime beaucoup ici. Il est très remonté contre le Covid, contre certaines catégories de gens et surtout contre certains discours. Az.
Première catégorie de personnes que je peux plus me voir, les spécialistes. T'as vu le nombre de spécialistes qu'il y a eu en France là pendant le Covid? 66 millions de Français, 66 millions de spécialistes. Hein. Tu vois les gens parler dans la rue, ouais, moi je te dis, moi c'est la charge virale. Mais qu'est-ce que t'en sais toi en fait? Je suis parti chez mon boulanger ce matin, il veut pas se faire vacciner, je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit on connaît pas les composantes du vaccin. Je lui ai dit mais t'es boulanger. Je lui ai dit même tes pains au chocolat ils sont pas ouf déjà. Je sais même pas si tu connais la recette des pains au chocolat, je sais pas. Les pains au chocolat c'est 2 barres de chocolat comme ça, c'est pas une qui fait la diagonale comme ça.
Et alors j'aime beaucoup quand tu racontes aussi ces problèmes avec la banque, c'est du vécu. Et ils ont inventé, je sais pas si vous le savez, la carte électron. C'est quand t'es interdit de carte bancaire, récit.
J'ai eu la punition de la banque il y a pas longtemps, ils m'ont enlevé ma carte bleue, ils m'ont mis une carte électron. Vous connaissez la carte électron? C'est comme la carte bleue sauf qu'elle passe pas. Mais elle ressemble, c'est une très belle contrefaçon, c'est une carte, voilà, pas de chiffres, pas de relief. Ce qui est bien, c'est que tu peux choisir ton petit dessin. Il te dit, vous voulez des petits écureuils? Toi, tu dis, ouais, des petits écureuils, pourquoi pas des petits écureuils? Ouais, tu mets tes petits écureuils. Une carte, voilà, une carte. On dirait une carte de jeu de société. On dirait une carte de Uno. D'ailleurs, tu vois bien, dès que tu la sors au restaurant et que le serveur la voit, il te dit, contre Uno, ça passera pas. Voilà, tu peux l'arranger ta petite carte de merde.
Est-ce que c'est de l'humour communautaire ce que vous faites ou pas?
Non, pas du tout, il y a de tout. Non, il y a pas d'humour communautaire, il y a juste des gens marrants qui montent sur scène.
Dans la présentation quand vous commencez, vous racontez que vous êtes dans le train avec des noirs.
Ouais, c'est ça, mais c'est pas ça fait en fait le but du jeu c'est de raconter une histoire. Là,
oui.
Je raconte
ça, mais ça aurait pu être une histoire dans le train avec des gens.
Oui, mais le but du jeu c'était ce sketch dont vous parlez, c'est pour parler du racisme que même moi je vois quand je suis en tournée et pour parler d'un fait de société et c'est un truc qui m'est arrivé donc c'est pas spécialement tiens, je vais parler des personnes de couleur. Non, c'est pour parler de ce phénomène qui se passe en France où il y a de plus en plus de personnes qui votent extrême droite.
Comme disent les féministes quand on voit le sujet, je vous le reproche pas, hein. C'est très très intéressant et ça soulève des très très bonnes questions. Il y a d'abord un noir, ensuite un arabe, ensuite une femme, on est dans l'intersectionnalité, et puis ensuite un blanc, il est pas français, il est québécois, il se moque des français, ensuite il y a un black qui s'appelle Ray Mendes, il arrive avec cette interrogation, justement ça fait le lien à tout ce qu'on a vu précédemment. Qui souffre le plus?
Et depuis tout à l'heure, moi, je croisais les humoristes, je leur dis « Alors, ils sont comment ?» Ils me disent « Bah, ils sont là. » Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, autour de moi, tout le monde va mal. En ce moment, il y a une sale ambiance. Il y a un mauvais mood. Tout le monde se plaint. C'est un concours de qui souffre le plus. En ce moment, il y a un délire du genre « Salut, ça va? Non? Bah, moi aussi. » après une battle, moi ci, moi ça. Mais grâce à ce jeu de qui souffre le plus, j'ai fait une découverte incroyable. J'ai découvert que chez chaque femme, il y avait un noir, et chez chaque noir, il y avait une femme.
J'ai mis cet extrait parce que ça va beaucoup plus loin, mais ça fait réfléchir. Ensuite, il va plus loin, il dit « Derrière chaque arabe, il y a un gay. Derrière chaque gay, il y a un arabe, et inversement. » Que vous inspire cette remarque et cette problématique ?
Ben, en fait, quand on a essayé de faire cette émission, justement, l'intérêt, c'était de montrer plusieurs styles d'humour et surtout de présenter toute la société. Parce que la société, c'est pas que des blancs qui montent sur scène, ou que des noirs qui montent sur scène, ou que des gays qui montent sur scène. C'était ce qui, en fait, on a voulu montrer ce qui se passe au Paname. Et quand vous venez au Paname, eh bien, vous avez des filles, vous avez des mecs, vous avez des gays, vous avez des noirs, vous avez des arabes, vous avez des juifs, vous avez des arméniens. Et bien en fait, c'est ce qu'on a
c'est
voulu montrer.
L'arménien.
Et c'est moi, et je suis le seul représentant.
Je dis pour les gens qui ne regardent pas sur europe1.fr, ils se montrent comme ça, ils s'auto-désignent, Madaignan.
Montre l'arménien. Ouais. Mais ce qu'on a voulu montrer en faisant cette émission, c'est ce qui se passe au Paname, tout simplement. Et ce qui se passe au Paname, c'est ça, c'est ces gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement, en fait, tout simplement. Et ça marche, puisqu'on arrive à faire des émissions.
Et je dois dire, les gens se tapent pas dessus, ils rient ensemble.
Ah ben oui,
c'est pas la moindre des qualités de cet endroit et de cette émission. Mathieu Manignan reste avec nous. Culture Média continue sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Mathieu Madaignan, il présente Génération Paname. C'est demain sur France 2 à 23h. J'ai dit 21h, rectificatif. Il n'y a pas que le point qui fait des rectificatifs. Il y a nous aussi. Ce sera à 23h sur France 2 demain. 12 jeunes humoristes que vous poussez, que vous mettez en avant avec Kader Aoun. Vous avez choisi ceux qui vous aient rire le plus.
Ouais, et ceux qui font rire le plus. Et surtout, on a une chance, c'est qu'on a France Télé qui nous suit. Parce qu'il faut le souligner, ça. Il y a de moins en moins d'espace pour les jeunes humoristes. Avant, tu avais les émissions comme Patrick Sébastien, tu pouvais faire un sketch entier, 5 minutes placé. Ouais. T'as encore Michel Drucker, mais après, il n'y a pas d'émission. T'as ce métier qui devient être chroniqueur. Mais des gens qui viennent pendant 5 minutes pour donner une opinion sur une question de société ou pas d'ailleurs, eh bien, il n'y en a plus. Et France Télé et Delphine Ernotte, merci, nous donnent l'occasion de. Tu vois, j'en profite. Ouais. Nous donne l'occasion de pouvoir mettre à l'honneur. Surtout après la période qu'on vient de vivre avec le Covid, ça devient de plus en plus dur pour... moi, j'ai de la chance parce que je suis un peu en place depuis quelques années, mais je me mets à la place des jeunes humoristes qui arrivent maintenant. Mon Dieu, heureusement qu'il y a ce genre d'émission j'espère qu'il va les aider.
Mais aussi qu'il y en a peut-être trop, non ? Il y en a beaucoup, beaucoup. Je veux dire, c'est devenu totalement à la mode. Dans les années 80, tout le monde voulait être publicitaire. Dans les années 2000, tout le monde voulait être journaliste. Et là, j'ai l'impression qu'il y a avalanche, je le regrette pas.
Ouais.
Mais il y a avalanche d'humoristes, comme il y a des bandes dessinées, on peut plus la BD.
Oui, c'est sûr.
Il sort 100 albums par
mais
mois.
Mais je pense que le plus dur dans ce métier, école Michel Drucker, ça va être de durer.
Bien
donc
sûr.
Ce que je leur dis à ces jeunes humoristes, c'est pas parce que vous avez 5 minutes bien, marrantes, que c'est ça qui va vous faire votre carrière. C'est une carrière, c'est sur 20 ans. Il faut se diversifier, il faut écrire, il faut se remettre en cause, il faut repartir de zéro. Donc tous les gens qu'on met à l'honneur là, à qui on permet de faire un peu de télé, eh bien après, c'est à eux de jouer. Voilà, tout simplement. Et après, la sélection se fera.
J'espère que je n'écorche pas son nom. Lenny Mbunga, c'est qui ?
Lenny Mbunga, c'est alors lui, il est au Paname depuis bientôt 10 ans, on a commencé ensemble. Et c'est un gars très marrant, qui est tous les soirs au Paname, qui écrit tous les soirs et qui fait partie de cette jeune. Mais déjà, lui, c'est un mec assez installé, du moins à Paris.
Alors, dans l'extrait que vous avez choisi et qu'on a choisi, c'est un sketch sur les différences entre l'Afrique et l'Europe. Exemple avec un sujet qui a concerné malheureusement l'actualité ce week-end.
Il y a plein de concepts qu'on a ici en Europe qu'ils n'auront jamais en Afrique, tu vois. Genre la gay pride. Tu vois. Va en Afrique, va dire j'ai un concept énorme, des mecs avec des chars, des mecs à poil. Et... Oui. Tu sais, quand t'es en Europe et que tu veux dire à tes parents que t'es gay, il y a une expression. Coming out. Sortir du placard. En Afrique aussi, il y a une expression. Sortir du pays. Tu sors. Et quand t'es loin, tu fais je suis gay. Et les gens font nous aussi, on est heureux pour toi. Je sais pas ce que je veux dire.
Alors, il est français d'origine congolaise réunionnaise. Ce genre de vanne passerait si le sketch était fait par un blanc ?
Alors là, aucune idée. En fait, l'intérêt, c'est qu'il soit fait. Je sais pas du tout si des sketchs doivent être faits. Voilà, qu'il soit fait et de manière marrante. Voilà. Alors, je sais pas du tout si un blanc.
Et télescopage total avec ce que racontait une autre humoriste sur qui se cache derrière qui. Il y a eu un attentat dans un bar gay à Oslo ce week-end. La Gay Pride était annulée. C'était un islamiste qui avait commis cet attentat. Et donc, on revient dans cette histoire d'ouverture. Ça pourrait presque être un reportage social de votre soirée au Paname.
Ben, ça a été enregistré il y a 4-5 mois. Et c'est pour vous montrer le talent de ces gens-là. C'est que, sans faire exprès, ils arrivent à anticiper les problèmes. Et ce qui est malheureux, c'est que ces problèmes continuent. Voilà, j'aurais aimé que vous disiez ce sketch est un peu démodé, vous trouvez pas?
Ouais.
Ben non, malheureusement, il est pas démodé. Et y a encore des. C'est l'intérêt de cette émission et de faire du stand-up, parce que je sais même pas ce que c'est véritablement le stand-up, mais c'est au moins d'être en prise avec ce qui se passe dans la société. Et ça, c'est assez intéressant.
Le stand-up, c'est quelqu'un qui vient et qui raconte sa propre vie. La carte électron de Haz, c'est parce qu'on a dû la lui donner et qu'il était.
Oui, mais si ça vous fait marrer, c'est que vous savez de quoi il parle et le lien psychologique qui se fait. Parce que si le mec il monte sur scène et qui raconte sa propre vie, au bout de 2 minutes, on décroche. Le but du jeu, c'est l'espèce. Vous savez, c'est la théorie de l'entonnoir à l'envers. Vous partez d'un fait précis, le vôtre, et après, boum, vous élargissez. Là, Lenny, il parle de sa propre situation d'un mec africain pour parler ensuite de la société des gays dans les pays africains, du moins dans le sien.
Ça fait lien avec votre spectacle qui tourne, spectacle familial.
Oui, là, c'est une belle arnaque. Hein. Je parle de ma famille pour concerner.
C'est ça l'idée.
Oui, bien sûr.
C'est exactement ça. Vous racontez votre famille.
Oui, parce que si on a tous un point commun, c'est qu'on a une famille. Donc, automatiquement, le lien psychologique, il se fait tout de suite.
Ouais. Et lien avec ce que vous disiez, vous racontez votre vie de comédien humoriste, vous racontez que vous avez fait toutes les promos possibles. Mmh. Et vous racontez dans le spectacle avoir fait la dernière du grand cabaret de Patrick Sébastien.
Oui, c'est vrai.
Racontez comment ça s'est passé.
Ben, c'était incroyable. Patrick Sébastien, il fait partie des gens avec Drucker, Ardisson, Ruquier, à m'avoir donné ma chance dès que je suis arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, personne me donne. Enfin, j'étais rien. Et ces mecs-là, Sébastien m'a permis de remplir mes tournées pendant des années. Et quand je suis arrivé, c'était Patrick Sébastien, et c'était la dernière du Grand Cabaret. Et je me rappelle, je devais faire ma promo, et juste avant, il avait chanté Une petite pipe avant de dormir. Et c'est vrai que passer derrière ça, c'était assez marrant. Mais même lui m'avait dit, tu vois, je vais faire une chanson qui va cartonner. Et je l'entendais faire Une petite pipe avant de dormir. Et moi, j'étais derrière, allez, tout de suite, Mathieu. Putain, comment tu passes après ça? C'était assez marrant. Et après, je sais, t'avais l'histoire d'un magicien incroyable. Qui me prend à témoin et il fait disparaître son assistante. Enfin, elle a fait disparaître. Moi, je l'entends parce que je l'entends courir, en fait, tout simplement. Elle se planque derrière les rideaux et je la vois, en fait. Et après, je regarde le magicien, il a vu que j'ai vu le truc. Il me prend la main et il me glisse « Ferme ta gueule ». Et là, tu te dis, mais c'est incroyable. Et donc, c'est ça l'intérêt. Alors, ça, c'est des. Pour le coup, tu vois, c'est pas du tout du stand-up de société, parce que tu racontes, tu fais du storytelling, mais c'est un bon moyen pour entrer dans un spectacle.
Vous serez sur la scène du festival de Collioure.
Ouais.
Le F-Estival de Collioure.
Exact.
29, 30, 31 juillet. Et vous êtes plus que partie prenante. Vous êtes le parrain, vous êtes l'organisateur.
Oui, je suis parrain, mais.
Faites tout, vous êtes à la buvette presque.
Oui, presque. Oui, c'est moi qui conduis l'avion pour amener les jeunes comédiens. J'ai la chance d'avoir. De vivre dans un joli village qui s'appelle Collioure. Et je me suis dit, vas-y, on va installer une scène sur la mer. On va faire le premier festival, les pieds dans l'eau.
Alors, attendez, donc, voilà. La scène, elle est vraiment sur la mer.
Ouais, on a installé la scène sur la mer et les gens, on l'a vu sur le spectacle et sur la baie de Collioure. Et j'ai la chance d'avoir des potes qui m'ont suivi, Arnaud Ducré, Boudère, Jérémy Craigville, Elodie Arnoux, Oldelaf.
J'avais noté Oldelaf aussi.
Voilà, et on va faire ça pendant 3 jours. Moi, je suis le parrain. Le but du jeu, c'est que je disparaisse et que ce festival devienne pérenne et que la ville de Collioure devienne une référence en matière humoristique. Voilà.
Merci beaucoup Mathieu Madénian, que d'actu, et ce spectacle évidemment va tourner aussi sur votre famille. Génération Paname, c'est demain sur France 2 à 23h. Ouais. Merci d'avoir été
avec nous en direct.
Culture Média continue, personne, c'est la première fois.
Voilà.
Mais merci à vous. Après les infos de 10h, notre invité c'est l'humoriste comédien, pote à vous, Jérôme Commandeur.
Oui.
C'est la seconde comédie qu'il réalise. Ça s'appelle Irréductible, avec un casting très impressionnant et l'histoire elle-même impressionnante. Et puis dans Les Indispensables, Sébastien Bordonnave nous parle d'une BD qui s'appelle Céleste. Céleste, c'est la fameuse servante ultra dévouée de Marcel Proust. Et puis l'imitateur que vous connaissez aussi, humoriste Marc-Antoine Lebray, en fin d'émission. À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture.